Nicolas Dubourg, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous un an après votre ce combat syndical? D'ailleurs, vous êtes arrivé au Syndéac, à la présidence du Syndéac, peu avant d'ailleurs, je pense, le Covid. Comme ça,
oui, c'était... Enfin, c'était quand même avant. C'est-à-dire que quand j'ai été élu, il n'était pas question de Covid. Hein. C'était pas du tout mon mandat. Donc ça s'est passé. J'ai été élu en janvier. À cette époque, le virus n'était qu'en Chine. Et puis en février, ça a accéléré. Et voilà, mars, patatras.
Et donc là, au bout d'un an, parce que vous êtes beaucoup battu, on vous a beaucoup vu. Comment vous êtes? Vous êtes fatigué? Vous êtes déçu? Vous êtes... Vous avez dit récemment aux Inrecuptibles, je crois, je ne comprends pas qu'on se sent absolument méprisé. On sentait quand même une déception.
Oui. En fait, il y a eu des hauts et des bas. Hein, c'est-à-dire que c'est inédit, je pense, de devoir affronter pour le Syndéac une telle crise. Parce que ça reste un syndicat modeste. Il y a une équipe de permanents d'une un peu moins de 10 salariés. Et puis 450, entre 450 et 500 adhérents. Donc à l'échelle nationale, ce sont des entreprises. Mais finalement, est-ce que le Syndéac était outillé, préparé à une telle intensité de travail? Je ne sais pas. En tout cas, on a fait front. C'est-à-dire que, ne serait-ce que si je parle de la question des réunions, normalement c'était un conseil national par mois et un bureau par mois. Et là, on est passé à un bureau toutes les semaines, et même à un moment donné, c'était un bureau tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a eu des périodes pendant cette... Donc forcément, comment je me sens au bout de un an, c'est comme quelqu'un qui vient de passer quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et voilà, et sur le pont d'un bateau qui tangue, qui est dans la tempête. Donc un peu de fatigue, évidemment. Et après, j'ai aussi cette responsabilité, je dirais, la responsabilité d'un bureau et du président aujourd'hui, c'est aussi toujours de relancer, malgré la difficulté, de toujours essayer de dégager l'horizon. C'est-à-dire qu'on est dans la tempête, c'est difficile, mais à la fois, c'est toujours d'essayer d'attirer l'attention sur ce petit point. Quand on est malade en bateau, on dit regarde l'horizon. Moi, c'est un peu ça l'image. C'est l'idée de dire regardez quand même au loin là-bas, il y a quelque chose qui se dégage.
Donc y croire.
Y croire, mais pas parce que je suis un béni. Oui. Y croire parce que il y a des signes objectifs. En fait, c'est pas les sept damnations de Dieu qui sont en train de nous tomber dessus. Il y a un virus, tout simplement, une épidémie. On y fait face, ça prend du temps, mais tout ça est à peu près connu, y compris historiquement.
Mais alors, du coup, il y a eu effectivement beaucoup de négociations au ministère, en
ouais.
direct avec la ministre, on a suivi tout ça, puis on a senti qu'à un moment donné, ça se grippait, les relations se tendaient, vous étiez moins reçu. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors déjà, en un an, on a connu deux ministres, et en l'espace des cinq dernières années, cinq. Donc il y a eu ça aussi, hein. C'est-à-dire que le ministère de la Culture a changé. On est passé de Franck Riester à Roselyne Bachelot dans le courant de l'été, et ça a été des habitudes à reprendre. C'est-à-dire entre le cabinet, le ministre et les conseillers qui forment le cabinet, et puis le mois de septembre, il faut tout recommencer. C'est-à-dire que tous ces interlocuteurs, y compris la confiance, parce qu'au début, on est dans des relations qui sont très formelles. Et puis, avec la confiance, il y a aussi un moment donné où on peut se dire les choses de manière plus franche et faire avancer des dossiers plus rapidement. Donc là, il a fallu, on a déjà perdu un petit peu ce temps-là qui était lié au changement d'équipe. Et ensuite, ça a aussi changé à Matignon. Et là, tout ce changement, je dirais que ça a été assez lourd pour le secteur. Donc on a peut-être bénéficié d'une forme d'inertie jusqu'au mois de décembre qui fait que les dossiers qu'on avait engagés étaient en train de se résoudre. Et puis les nouveaux problèmes arrivaient. Et là, on a réellement buté, c'est-à-dire que pour moi, il y a une erreur politique qui est commise par le gouvernement à la fin du mois de novembre, début décembre, au moment où il décide de réouvrir tous les commerces. Je dis bien tous les commerces, c'est-à-dire les vêtements, les magasins dits non essentiels. Et il décide, sans aucune explication, de maintenir cinéma, théâtre, musée fermé. Sans aucune explication, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte scientifique qui dirait qu'il est moins dangereux d'aller s'acheter des meubles, des fringues et je ne sais pas quoi d'autre, des bibelots, que d'aller passer une heure dans une salle. Il n'y a rien qui le dit. Mais là, de manière complètement arbitraire, il décide de le maintenir.
Voilà. Est-ce que c'est vraiment de l'arbitraire? Parce qu'au fond, depuis qu'on se pose la question et qu'on s'étonne, est-ce qu'au fait, il n'y a pas un choix de société? C'est-à-dire que, bon, même sans simplifier de manière outrancière, mais on laisse les hypermarchés ouverts et on sacrifie les théâtres. Est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas de ça?
Si, moi j'en suis convaincu. Moi je suis convaincu qu'il s'agit d'un choix politique. C'est-à-dire que le choix politique qui est fait au mois de décembre, c'est décembre égale fête de Noël égale commerce égale comment rétablir le PIB. Donc ils se disent quel est le risque acceptable. Ben, c'est un risque qui nous permet malgré tout de rétablir de l'activité économique. Tout ce qui ne va pas y participer, ben, on peut le maintenir fermé. Donc le choix, il ne s'est pas fait sur la question de on aime ou pas la culture. La question, ça a été de se dire, au fond, qu'est-ce que ça va apporter en termes de commerce, en termes de business ou quoi que ce soit. Et je pense qu'ils se sont dit, pas grand-chose. Autant laisser fermer ce qui ne rapporte rien.
D'accord. Et Roselyne Bachelot, que vous avez vue, d'abord, comment vous l'avez trouvée sur le plan humain? Et ensuite, est-ce qu'elle a été porteuse, elle aussi, de cette idéologie qui a finalement conduit à négliger la culture?
Ça, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'après, j'ai lu beaucoup d'interprétations sur... voilà, son parcours à elle ou la manière dont peut-être le Premier ministre concevait la culture. Ça, c'est... je dirais qu'il y a beaucoup de raccourcis et peut-être de caricatures.
Ouais.
Voilà, de caricatures qui sont... moi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Je préfère regarder objectivement, en fait, ce qui se passe et de dire qu'on est dans un gouvernement qui a un prisme économique hyper fort, qui est lié au fait que c'est une conception plutôt néolibérale des choses et qui consiste à dire que ce que fait le gouvernement, finalement, c'est de favoriser l'économie, et que le reste doit être laissé... à la libéralité du marché.
Oui, mais sachant quand même que c'est un grand paradoxe, sachant que l'industrie culturelle est précisément une industrie et un secteur, ça a quand même été prouvé, oui. Ça ne peut pas s'ignorer comme ça.
Non, mais d'ailleurs, ils ont réouvert assez rapidement les librairies, ouais. Qui ont fait des chiffres d'affaires absolument incroyables à partir du moment où elles ont été réouvertes. Hein. Donc, voilà. Après, qu'est-ce qui restait en termes d'ICC? Une des industries qui est touchée très durement, c'est l'industrie des concerts. Donc la musique actuelle sous le volet musique vivante. Mais faut savoir que les industries musicales, c'est aussi Deezer, c'est aussi tout ce qui se passe sur le web et qui là fonctionne très 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 bien.
Alors, quand ça va être quoi là, l'effet c'est-à-dire sans doute l'effet de cette bascule numérique dont vous avez fait un débat ici là-dessus, cette bascule numérique dans la culture qui a connu une accélération historique, mais totalement ravageuse. On sent que la plupart des artistes sont d'ailleurs contre. En général, il y a une parole hostile à cette numérisation. Il y a même des cinéastes qui ne veulent même pas connaître les chiffres de vente de leur plateforme quand ils y sont. On entend ça. Ça va être quoi, cette mutation accélérée sur la culture? Qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce qu'on peut l'envisager?
Alors là, encore une fois, je pense que ça va dépendre des médias. C'est-à-dire qu'un artiste qui s'exprime par l'image ou par le son, ce sont des médias qui sont numérisés déjà. Il y a la photo, la caméra, les enregistrements sont déjà numérisés. Donc finalement, ce qu'on appelle la bascule numérique, si on prend le débat qui a agité les photographes argentiques versus numériques, c'est un débat qui a été tranché il y a 20 ans. Donc la question, c'est la mise en ligne et la mise en réseau plutôt que la numérisation. Et cette mise en réseau, pour ce qui est du spectacle vivant, elle va quand même, à mon avis, avoir des impacts assez profonds. Parce que on ne peut pas raisonner un secteur indépendamment des autres secteurs. Donc l'artiste va dire non, mais moi, ce que je veux fondamentalement, c'est la relation à mon public. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, les tournées des artistes sont rendues possibles par tout un tas d'autres secteurs. Je pense en particulier au secteur de l'aviation, au secteur de l'hôtellerie, qui permet à ces tournées de fonctionner avec un coût réduit. C'est-à-dire que l'explosion de la tournée de l'artiste, quelque part, est liée au fait qu'il existe une industrie du tourisme low cost qui permet à un artiste de partir de Londres, de venir à Montpellier en utilisant une ligne low cost et en dormant dans un hôtel très peu cher. Aujourd'hui, cette industrie-là, elle fonctionne non seulement parce qu'il y a des touristes, mais elle fonctionne aussi parce qu'il y a des gens, des personnes du tourisme d'affaires qui se déplaçaient énormément et que ce tourisme d'affaires rentabiliser les lignes low cost et l'hôtellerie. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe par exemple dans des groupes comme Accor ou comme Air France, etc., c'est quoi l'ère post-Covid? Ça va être un monde dans lequel le tourisme d'affaires va imploser. Il va se réduire à sa portion congrue. Donc qu'est-ce qui reste d'un Londres-Montpellier à 100 euros aujourd'hui dans le monde de demain? Est-ce qu'il sera toujours aussi rentable de faire tourner des artistes de la même manière quand ces tournées sont énormément liées à la question du low cost? Moi, c'est une vraie question. Donc ça veut dire que ça ne va pas être tellement la question de comment l'artiste décide lui-même de dire moi je préfère le spectacle vivant avec le public, ça va être plutôt comment les secteurs qui l'utilisaient en périphérie rendent cette rencontre possible, et que finalement on avait des tournées qui s'organisaient à l'échelle du monde qui vont être empêchées pour des raisons économiques, et que la question de la rencontre du public va impliquer une nouvelle territorialisation de l'art. Donc ça, je trouve ça très intéressant, c'est de se dire ben, au fond, est-ce que le monde que j'habite est le même monde qu'avant?
Est-ce que plus étroit, plus ramené à nos territoires, à nous, a priori?
Eh bien, en tout cas, je pense que ça va forcément avoir un impact. Ça va forcément avoir un impact. Organiser une tournée aujourd'hui, ça va impliquer... organiser une tournée demain, ça va impacter fortement les budgets de production des artistes. Et donc, à un moment donné, ils vont se poser la question de se dire « Est-ce que je décide de passer 6 semaines en répétition ou est-ce que je décide d'en passer que 2 semaines en répétition ?» Parce que j'ai mis l'équivalent de 4 semaines dans mes billets d'avion.
Il y a un impact alors là directement sur l'existence même de pas mal d'acteurs culturels. Est-ce qu'on sait là, au bout d'un an, je ne sais pas si c'est un quart, de la mortalité en fait culturelle liée au Covid, est-ce qu'elle est mesurée, mesurable?
Alors elle va être mesurée. Il y a un rapport là qui doit sortir dans les tout prochaines heures, qui est le rapport de André Goron, qui a été commandé par le gouvernement et qui est là pour chiffrer sur la partie intermittent. Parce que les artistes ne sont pas tous intermittents quand même. Il y en a beaucoup qui sont aux AGSA, la maison des artistes, etc., qui sont des indépendants.
Quelle part relève de l'intermittence environ dans...
Environ 180 000.
D'accord.
Hein, 180 000 techniciens, artistes, qui sont... Alors, il y en a plus qui sont dans les annexes 8 et 10, mais il y en a environ 180 000 qui sont... qui bénéficient, en fait, des indemnités...
Mais c'est quoi? C'est un quart? C'est la moitié?
C'est un quart de quoi?
Du monde, des artistes en général?
Ah, ça, je ne saurais pas le dire. Je ne sais pas. Parce qu'après, il y a aussi des artistes qui... un artiste, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vit de son art.
Oui.
Donc, la limite, là...